Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Campus Lille. Coup d'œil dans le rétro aujourd'hui au menu de l'émission des motards, il y a presque 50 ans, le 16 février 75 à 10h, 286 pilotes prenaient le départ de la plus grande course d'enduro d'Europe et de la plus longue course sur sable du monde. Il y a 50 ans, Emmanuel Couteau à 10h mettait plein gaz sur la plage du Touquet. Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, faut te rapprocher du micro.
Oui, très bien.
Alors c'est bien vrai, il y a 50 ans, ça fait un petit peu ancien combattant, hein, un peu, non ?
Ah, tout à fait, oui, ça fait 50 ans, mais j'avais 22 ans et voilà.
T'avais 22 ans à l'époque, voilà. Mmh. Avec quelle machine ?
Je lui étais engagé avec une 250 XL, une 250 XL Honda, toute d'origine.
Et comment s'est passé le départ ? Tu te souviens un peu quand même ? T'avais la pression, t'avais un peu le stress ?
Non, pas de pression tout, non. Bah, c'était une course, nous, un peu détente. Hein, parce que Bah oui, parce que je faisais le championnat des Flandres à l'époque, mais l'hiver, on avait évidemment pas de course. Et en début de saison, avant la saison en France, on allait rouler en Belgique. Parce que les Belges y commençaient bien avant nous. Donc, oui. Mais là, au mois de février, effectivement, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de course. Donc on a vu qu'il y avait une course sur sable organisée au Touquet.
Ah, tu nous diras, comment vous avez appris cette course sur sable ? Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone. Attends, on va en parler après, durant l'émission. Parce qu'on n'est pas seul. Hein, on a beaucoup de crossman aujourd'hui, ou d'enduristes, hein, ici, autour de la table. On va commencer avec ton frangin, Xavier Couteau. Bonjour Xavier.
Salut.
Alors Xavier, toi tu vas prendre le départ dans 21 jours là. Oui. Tu vas prendre le départ du vintage.
Oui, exactement. Et
avec une CZ bitube, tu m'as dit, hein.
Oui, c'est ça.
Toi, tu nous expliques ce que c'est qu'une bitube.
Bah, c'est une monocylindre, deux échappements.
Ah voilà, très bien. Et puis ce qui est impressionnant, c'est que à vous deux, la machine et toi, vous faites 137 ans.
Oui. Ça me rajeunit un petit coup quand même.
C'est ça, je me suis pas trompé, Xavier.
Oui, mais c'est quand même.
Vous avez 137 ans, donc.
Je suis plus vieux que la machine quand
donc,
même.
Je pense que tu vas avoir une médaille.
Je l'espère, mais on est mal parti parce qu'au Touquet, je crois qu'on néglige un peu beaucoup les vétérans et les anciennes machines. On pense plus à faire tourner les machines de 90, 90.
Oui, ça c'est une grosse discussion. Hein.
Oui, c'est une très grosse discussion, mais elle n'est jamais abordée par les spécialistes. Ouais. Et effectivement, il va falloir en parler sérieusement, parce que l'année dernière, il devait y avoir 4 vieilles machines. On ne voit plus de Bultaco, on ne voit plus de vieilles KTM, on ne voit plus de pratiquement aucune
ça,
vieille
c'est
moto.
Vrai, oui.
Et donc, moi, je vais mettre sur la piste comme en 96. C'était en 2016, pardon, la CZ, 1964.
Voilà. Mais tu m'as dit que vous n'êtes pas le couple le plus vieux. Il y a encore plus vieux que toi.
Ah non, il y a peut-être plus vieux que moi, mais le couple, ce sera CZ et Xavier, ce sera le plus vieux couple.
D'accord, très bien. Bon voilà. Bon, voilà. En face de nous sur cette table aujourd'hui, un Philippe. Pareil, bonjour, 62 ans, Philippe. Je peux me dire ton âge, ça ne te dérange pas. Voilà. Toi, tu participes au championnat des courses sur sable, mais en vintage.
Ouais, c'est ça.
Depuis 3 ans.
Oui, à peu près 3-4 ans, je ne sais plus exactement.
Avec quelle machine ?
Avec un 3. Alors, d'habitude, c'est avec une 250 KTM GS de 81. Et donc, cette année, ça sera avec un 390. Toujours de 81 d'ailleurs, une GS aussi, parce que finalement à 250 j'ai fini par la rincer quoi, parce que franchement j'ai eu du mal à franchir les lignes d'arrivée à chaque fois, on a eu du mal à les régler, voilà, donc là j'ai fait une petite saison de terre avec la 390, là, j'ai déjà fait la ronde des sables, j'ai fait Graillon, tout ça c'est terminé, même à Graillon du coup comme étant la plus ancienne, par le fait des catégories du coup je retrouve à faire un podium. J'espère que ça va tenir cette année aussi. Et
je vous expliquerai un petit peu le championnat des sables. Il y a six épreuves.
En vintage, il n'y en a que 5, parce que du coup, le Touquet est sorti du championnat. Voilà, donc ça démarre à Berck pour finir finalement à Graillon.
Et on parlera aussi de la Coupe du Monde, les courses sur sable.
Je suis pas un spécialiste.
C'est pas spécialiste. Alors moi, j'ai cherché de l'info, j'ai pas bien compris comment ça se passe. Hein. Voilà, très bien. Bon, et bien messieurs, je vous présente Isaac. Alors Isaac, alors lui, je ne connais pas son âge, mais il est jeune.
30 ans.
30 ans, voilà. Messieurs, ce sera dans 21 jours, lui va prendre le départ de l'enduro, hein, du dimanche, hein, la course. Hein.
C'est ça, exactement.
Hein, pour la première fois.
Pour la première fois, exactement. Donc la grande course, donc 3 heures. Départ donc dimanche 13 heures. Pour cette première fois pour moi ici au Touquet.
Vous allez pouvoir lui donner des conseils aux jeunes, Manu.
Oui,
Manu.
Sûr, ouais, on va essayer. Ouais.
Bah oui.
On va déjà lui dire bon courage.
Bon courage.
Merci.
Moi, je suppose que tu t'es entraîné. Tu as déjà fait.
Ouais, c'est ça. Ouais, je me suis entraîné. Ouais. J'essaye de m'entraîner au minimum une fois par semaine. Ouais. Donc samedi ou dimanche. et voilà, pour pouvoir être prêt le jour J, quoi.
Très bien, bon voilà. Et puis pour terminer, il s'est incrusté, voilà, c'est Guillaume. Sait pas, il n'était pas prévu, mais voilà, il est avec nous aujourd'hui. Guillaume, pareil, hein, tu participes régulièrement depuis quelques années à l'Enduropal. Hein.
Oui, j'ai fait
le vintage. Hein,
j'ai fait trois fois le vintage.
Course. Oui, trois fois le vintage.
Et deux fois la grande course du dimanche.
Ouais, voilà.
Avec Xavier, Philippe.
Tu pourras nous dire aussi ton expérience, nous donner ton expérience aussi de ce qu'il faut faire, pas faire quand on débute dans une course de sable.
Mmh.
Voilà. Voilà, émission, c'est Kick un coup et tout pâle, c'est sur le campus Lille 106,6. Et on va dire bonjour à notre technicien Laurent pour cette émission. Et on se retrouve juste après le premier morceau de musique. A tout de suite. We'll be right back. Manu, comment ça s'est passé il y a 50 ans? Le premier Enduropal, en 75.
En 75, ouais, c'est vrai.
Comment ça s'est passé?
Relativement bien, parce que nous, on arrivait là-bas sans pression, parce qu'on allait pour s'amuser, pour faire un entraînement, et puis, en fin de compte, c'était une vraie course. Et puis, je m'étais engagé avec une 250 Honda qu'un ami m'avait prêté.
XLS, c'est ça?
Une 250 XLS Honda, ouais, toute d'origine. Ouais. Parce que j'avais pas de moto homologuée, et sur le règlement, il était bien stipulé qu'il fallait une moto conforme au code de la route, quoi.
Alors, au code de l'enduro.
Au code
de l'enduro, c'est-à-dire qu'il fallait l'éclairage à l'époque.
Tout à fait, ouais.
Et la plaque d'immatriculation, l'éclairage.
Tout.
Les silencieux.
Silencieux homologués.
Homologués, voilà.
Donc, j'avais qu'une moto de cross. Donc, un ami, mon collègue de travail, Jean-Pierre Quinet, m'avait prêté sa moto pour l'enduro. Et puis voilà, on est arrivé là-bas, on s'est engagé un peu avec difficulté parce qu'ils étaient un peu débordés, l'organisation était débordée par le nombre apparemment, et ça a duré jusqu'à 8h du soir pour le contrôle administratif. Quoi.
Il y avait 286 pilotes
qui
ont pris le départ apparemment, d'après ce qu'on peut lire sur les sites. Hein. 286 pilotes, et toi tu as fini 13e.
Ou 17.
17e.
Voilà.
17e.
Ouais.
Incroyable, ça.
Même avec surprise, parce que, évidemment, que la 250 XLS, elle manquait cruellement de chevaux, et que dans les hauts, parce qu'à cette époque-là, on passait à mes villages, on prenait toutes les côtes, quoi, qui ne sont plus maintenant dans le circuit. Et j'étais obligé de pousser pratiquement à chaque haute côte.
Oui, alors quand on va sur les films de l'INA, tout ça, on regarde, effectivement, les pilotes descendent de la moto la poussent.
Hein. Oui, c'était obligatoire parce qu'il n'y en avait pas assez.
C'est ce que tu as fait aussi?
Ah oui, bien sûr, pendant toute la course. Quoi. Mais j'étais jeune et en forme, et ça s'est bien passé.
Là, tu pousses, alors il n'y avait pas de... Comme maintenant, il n'y a pas de stand,
Rien du tout.
Tu avais un mécanicien, non?
Non, c'est mon père qui m'attendait avec un jerrycan sur le bord de la piste.
Ah, d'accord.
Et puis voilà, on s'arrêtait, on faisait le plein et puis on repartait, quoi.
Et puis alors, ça c'est, combien de temps a duré cette course, là? Cette première course, elle a duré combien de temps?
Alors là, j'ai plus la mémoire. C'était relativement long, à mon avis. Peut-être.
Parce que maintenant, c'est 3 heures.
Ouais, non, c'était pas 3 heures, c'est sûr.
Parce que, je ne sais pas, Philippe ou Xavier, tu pourrais... Avant, il y avait, c'était 1 heure, c'était 1h30 ou...
Il y avait 2 manches.
Il y avait 2 manches.
Deux manches d'une heure et demie.
Il y avait 2 manches d'une heure et demie.
Oui.
Voilà. Et ensuite, on a arrêté de faire...
Les deux manches.
Voilà.
Et puis, mais là, peut-être bien 1h30 à l'époque, mais je n'ai plus vraiment en tête la durée. Mais bon, j'ai roulé le mieux que j'ai pu, et puis à l'arrivée, je savais même pas mon classement, parce que nous, on est reparti,
Comment ça s'est passé, au niveau du classement des temps, parce que maintenant, il y a un système électronique qui fait que à chaque fois que tu passes devant la ligne, il y a un
transpondeur. C'était le pointage à la main.
Et comment c'était? C'était un pointage à la main?
Comme en motocross, ils prennent le numéro en passant, et puis dans des grilles, et puis à la fin, on voit,
D'accord.
Donc... Mais ça se passait relativement bien parce que, évidemment, dans le sable, il n'y a pas de boue, donc les plaques, elles sont tout le temps bien visibles. Et
oui,
voilà, quoi.
C'est important, ça.
Voilà. Ah oui, parce que...
Voilà. J'ai vu aussi que, en fait, après le contrôle technique, il fallait aller peindre sa plaque, son numéro.
Ouais.
C'est ce que tu as fait?
Il y avait un petit marquage de peinture,
De peinture, il fallait prendre le pinceau et marquer son numéro. Voilà.
Pour authentifier la moto.
Oui. Mm-hmm. Et c'était le pilote qui faisait ça?
Non, c'est pas le pilote, non. C'était le contrôleur technique, oui. Comme en enduro encore maintenant.
Qui peignait ton numéro sur la plaque. Tu devais fournir la plaque à Noval.
Ouais, la plaque ovale, ouais. Et puis il fallait qu'on fasse le numéro, ouais.
D'accord, très bien. Et puis donc tu l'as fait. Tu t'entraînais donc au clipon, le terrain d'entraînement, c'est
voilà,
ça.
Voilà. Ouais. Ça c'est après, parce que là pour le premier enduro, il y a personne qui s'était entraîné. On savait pas ce que c'était de toute façon. Donc il y a personne qui avait.
Comment vous avez appris qu'il y avait un premier enduro? Parce que maintenant, on sait,
Mais je me rappelle plus, mais peut-être bien par l'intermédiaire de Motorevue où il y avait une rubrique par région.
Ouais.
Que Guy Pilarzic.
Guy Pilarzic, ah oui, tu vois.
Le très connu
correspondant,
Guy Pilarzic.
Ouais. Ouais.
Et peut-être bien que c'est comme ça qu'on l'a appris, quoi. Et c'était le MCNF qui organisait à l'époque, quoi. Enfin, Sabine avec le MCNF.
D'accord, oui. Ça, c'était le club. Voilà. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas les pneus godets, il n'y avait pas les pneus sable. C'était, l'expérience, c'était le cross, en fait, le terrain de cross, la terre.
Bah, tous les gens du coin qui faisaient du cross avaient leur moto de cross, évidemment, avec des numéros. Enfin, là. Et sinon, il y avait quand même pas mal d'étrangers à la région, donc des Parisiens, tout ça, qui venaient avec les gens qui faisaient le championnat de France d'enduro. À l'époque, ils étaient là avec leur vraie moto d'enduro. Voilà.
Et alors l'enduro, c'était quoi? C'était sur la terre ou sur du chemin, mais pas vraiment dans le sable?
Ah bah non, il n'y avait pas, sauf...
Parce que le sable, c'était une discipline qui n'était pas
c'est
courante.
C'est bien spécifique. Ouais. Il n'y avait qu'un enduro à l'époque qui se faisait en Bretagne. J'ai oublié le nom, ça va peut-être me revenir, mais il n'y avait que là où les enduristes roulaient un peu dans le sable. Sinon, c'est toujours de la terre, toujours. Ou des cailloux, quoi. Enfin bon...
Donc vous avez les pilotes ont découvert la nature de la course sur sable.
Mmh. Ouais. Bah nous, pardon. Nous on allait rouler un peu en Belgique avant la saison française. Hein. On allait rouler un peu en Belgique parce qu'il démarrait beaucoup avant nous. Et nous dans le sable, dans les Flandres, on allait rouler quand même dans certains terrains de sable. Donc quand on a les gens qui allaient à la BVM, donc la BVM c'était la fédération belge, une des fédérations belges parce qu'à l'époque il y en avait quatre. Et puis, bon là, on en est roulé de temps en temps dans le sable en Belgique. Il y avait aussi un terrain d'entraînement à Maubray, pas loin de Valenciennes, du côté de Saint-Amand-les-Eaux, la frontière, qui est en Belgique. Et là, c'était un terrain de sable, c'était une ancienne carrière de sable, où on pouvait rouler dans le sable. Donc c'était les occasions de rouler dans le sable, mais c'était quand même pas la majorité.
Il y a plusieurs types de sable, Philippe. Il y a le sable en carrière, le sable de la plage, on dit qu'à Loonplage, le sable à Loonplage, il n'est pas pareil qu'au Touquet.
Bah oui, enfin après ouais. Loonplage, le sable est un peu plus dense, il y a un mélange de terre, enfin etc. Donc ouais. Du coup, effectivement, c'est un peu plus dur, quoi. Mais Berck est très fin, par exemple, Osgore aussi, c'est un sable plutôt fin, enfin voilà.
Donc Manu, le sable de carrière et puis le sable de la plage du Touquet, quand vous êtes arrivé là, tu dis que la piste a été balisée sommairement.
Ah oui, tout à fait, ouais, il y avait quelques banderoles de temps en temps, des piquets, ouais. Voilà. Mais bon...
Il y a des pilotes qui se sont paumés.
Paumés, non. Non, parce qu'il y avait la trace. Hein.
Quoi ?
Il y avait la trace, hein, donc de toute façon, non, perdre, ce n'était pas possible. Mais c'est vrai que ce n'était pas l'organisation comme maintenant. Hein. Il n'y avait pas de barrière.
Oui, bien sûr.
C'était voilà, quoi.
Et puis, est-ce qu'il y a eu ce départ donc, sur la plage hein,
ça... Oui, le départ en ligne au drapeau, bien sûr. Il ouais. n'y hein, avait pas de... Y avait
rien, de la même distance, c'est 3 km, je crois.
Oui, il y avait une belle ligne droite déjà, ouais. Là, la 250XL, sur le dur...
Sur le dur, ça allait encore.
Ça allait encore, quoi.
Ouais.
Quand on arrivait dans le sable, c'était plus compliqué, quoi.
Donc, il y avait toujours... c'était le départ de ce fameux goulot, là. Il y avait toujours ce premier all-shot, là, le premier virage. Là.
Ouais, on prenait le goulet, hein, comme ça s'appelle, hein, ouais. Avec la première montée. Et puis après, on allait jusque mes villages. On prenait les grandes montées et les grandes descentes dans mes villages. On repassait par l'esplanade de Stella, d'ailleurs, à l'époque. Et puis après, on rattrapait les dunes et la plage, quoi. Hein. Mais c'était le grand circuit à l'époque, quoi. Ouais.
Et ce circuit, il n'a pas changé, cette première édition. Le circuit n'a pas changé après, sur les éditions suivantes.
Il y a eu quelques années. Moi, je l'ai encore fait, pas en 76, en 78, en 79. Il était encore conforme au premier enduro, quoi. Après, avec l'écologie, après, avec les mairies, il y a eu des modifications, quoi.
Ouais, en fait, tu dis aussi que les pilotes pensaient pas que ça allait prendre une telle ampleur.
Ah ouais, tout à fait, ouais.
C'était un one shot, c'était une première fois ou deux fois.
Ouais, c'était pour.
Mais que ça allait pas devenir un petit peu ce que c'est que l'épreuve en 2025, plus de 1000 pilotes.
On s'imaginait pas du tout que ça allait prendre de l'ampleur comme ça. Hein. Mais dès. Ça avait bien marché la première année, il y avait eu un peu de spectateurs, et puis la deuxième année, 76, c'est pareil, ça a toujours été en grandissant, quoi. Ouais.
Alors, tu dis aussi qu'il y a des gens qui ont triché, parce qu'on n'avait pas le droit d'utiliser des motos de cross.
Ouais, mais bon, comme d'habitude, il y a des gens qui avaient leur moto de cross avec un éclairage et un feu, quoi.
Ça avantageait les pilotes, ça ?
Ah bah oui, beaucoup, ouais. Une vraie moto de cross, Par exemple, c'est Vernier qui gagne, hein, Jacques Vernier. Jacques Vernier, oui. Le beau-fils de Marcel Seurat. Bon, Jacques, il a gagné avec sa Ossa d'enduro, une vraie moto d'enduro. Ouais. Mais quand on prenait une Ossa Phantom, une Cross, c'était les mêmes motos, quoi. Hein. Si on leur mettait un éclairage, ça devenait une moto d'enduro, quoi, hein, si vous voulez.
J'ai vu que c'est des éclairages à piles.
Oui, bah beaucoup.
Pour alléger le moteur.
Ben non, mais sur les motos de cross, il n'y a pas de.
Il n'y a pas de bobine. Rien.
Pas de bobine. Oui. Donc voilà.
Donc on mettait un faux éclairage.
Un faux éclairage, voilà.
À piles. Donc si tu avais eu une moto de cross, peut-être que tu aurais fait même mieux que 17ème.
Ben, j'aurais fait mieux, je crois, parce que, ouais, franchement mieux. Parce qu'il y a cette époque-là, je crois que.
Rich... Parce que c'est quand même incroyable avec une 250 XLS.
Mais j'ai tiré mon épingle du jeu. Hein. Il y avait Richard Bossard, avec qui on roulait en ligue, hein, avec qui je me bagarrais tout le temps, qui, lui, avec sa Ossa, je crois qu'il fait 5 ou 6ème, quoi. Donc j'aurais été.
Alors les Bossards, ils avaient triché. Hein. D'après ce que j'ai vu, j'ai pu lire sur les bouquins, les gros bouquins, là. Ils sont venus avec les motos de cross.
Ils s'adaptent. Hein. C'est vrai que tout le monde. Parce qu'après, c'était devenu monnaie courante. Hein. Tout le monde s'est engagé. C'était des précurseurs, quoi.
C'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de trails qu'on voyait, des
trails
X, des.
Donc, est-ce qu'il y avait déjà beaucoup de spectateurs pour ce premier, là, en 75?
Sur la digue où on avait fait où on faisait le ravitaillement, hein, c'était le plus simple, quoi. C'était le plus près du parc. Il n'y avait pas de parc à coureurs, d'ailleurs, tout ce monde.
Père, il était où avec le jerrycan?
Avec le jerrycan sur la digue, là, pratiquement, mais pas sur la digue, mais sur le circuit. Mais il n'y avait même pas de banderole à cet endroit-là. Hein, on était là, quoi. Hein, et puis, il était sur la digue avec le jerrycan, tout simplement.
Et puis, il y a la mécanique aussi, parce que bon, c'est cassant comme une course sur sable.
Non, bah, de toute façon.
Il y a beaucoup de machines qui ont des problèmes.
Hein. On n'avait aucune assistance. Mais il n'y avait pas, pour l'époque, il n'y avait pas beaucoup de casse, en fin de compte. Parce qu'il y avait beaucoup de trail, c'est vrai, qui, elles, sont habituées à rouler sur la route, quoi. Hein, donc, ça pouvait rouler sur le sable. Bon, il y a eu un peu de casse, mais pas beaucoup par rapport à après, quoi.
Puis ça roulait peut-être moins vite aussi.
Ça roulait moins vite aussi. Tout l'ensemble roulait moins vite, c'est sûr.
Ouais, c'est sûr. Voilà, très bien. Bon, écoute, on va passer un morceau de musique et puis après on va avoir Éric Poirier. Vous connaissez Éric Poirier,
auteur de deux
gros bouquins sur la table.
Génial, hein, formidable.
Hein, oui. Mm. De quoi, Xavier?
Oui, une petite aparté, oui. Nano. Tu oublies de parler de la sablière de l'offre.
C'est vrai qu'on avait
de l'offre.
Un petit terrain qu'on avait ouvert nous-mêmes, d'ailleurs, on avait été roulé.
Près de Marchienne, Pécancourt.
C'est un tout petit circuit qu'on avait, d'ailleurs, qui a été utilisé après pour des crosses, FFM et UFOLEP. Mais c'est nous les premiers qui avons étant allés un dimanche, parce qu'on n'avait pas de terrain d'entraînement, hein, et on n'avait pas encore de vraies motos de crosse, d'ailleurs. Et là, je devais avoir une Java transformée.
Oui, une Java de 50.
Et puis, on avait été là-bas, et puis, on avait vu cette sablière. C'était un terrain abandonné, quoi. Hein. Il y avait quand même un peu d'herbe en haut. Et puis, on est descendu, nous, dans le terrain. On s'est amusé. Puis, d'un seul coup, on a vu arriver quelqu'un. C'était le propriétaire qui nous a dit: qu'est-ce que vous faites là?
Comme d'habitude.
Et puis, on fait de la moto. Voilà, vous voyez bien.
C'était le père de Marc Silver, propriétaire du terrain. Marc Silver, c'était quelqu'un de très connu après dans le motocross, parce qu'il a fait le championnat des Flandres 125.
Et
il a été deuxième. Il a fait
aussi
du sidecar cross. Il a été entraîneur de basket à haut niveau.
Orchi,
Denain, tout ça. Et puis Marc, après, il était gamin, parce qu'il est un peu plus jeune que nous. Et il était gamin, il a commencé à rouler quand on a roulé là. Et c'était le début. Et là, c'est vrai, c'était une vieille carrière de sable qui avait été exploitée. Et voilà, donc on a commencé à rouler là-dedans. Et c'est vrai que là, c'était un peu sableux, ouais.
Voilà. Et oui, c'était un problème parce que là, maintenant, on va à l'Oumplage. Hein. Tous les pilotes pour s'entraîner vont à l'Oumplage. Hein, mais à l'époque, ça n'existait pas, l'Oumplage.
Donc,
il fallait trouver des endroits où on pouvait s'habituer au sable, à rouler dans le sable.
Et puis,
tester aussi les machines.
Et ça coûtait moins cher aussi.
Et ça coûtait moins cher, oui.
Il y a un certain nombre de terrains qui ont été fermés aussi. Donc, du coup, ça s'est réduit. Aujourd'hui, c'est l'Oumplage.
C'est l'Oumplage.
Même en région, on vient ici.
Ouais, puis le Clipon, comme on disait tout à l'heure, c'était un petit terrain pirate.
Alors, Clipon, c'est à côté de Dunkerque. De Dunkerque,
ouais. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Et puis, on allait rouler là, à la maison du pendu, là, comme, ça, comme on disait, ouais. Une maison abandonnée. Et là, l'avantage qu'à l'époque, c'est qu'on pouvait aller faire des essais sur la plage. Ah oui. On ne nous disait rien, quoi.
Ah oui, vous alliez sur la plage, en plus.
Maintenant, on va en prison. Ouais.
Ah bah maintenant, c'est... Ah, très bien. Oui, Manu, ça c'est vrai. Voilà. Bon, on passe à un morceau de musique et on retrouve Éric Poiré après, juste après le morceau de musique.
Volontiers.
magazine de la moto sur Campus 106,6 et aujourd'hui c'est un spécial 50 ans. Alors avec Manuel Couteau qui a pris le départ il y a 50 ans de la première épreuve de l'enduro sable du Touquet. C'est comme ça qu'on l'appellation, c'était parce que ça a changé. Hein. Maintenant, on est en du Rupal. Hein. Oui. Quoi ?
Non, je crois que c'était 50 ans à Manu.
Là, c'est les 50 ans de Manu. Non, je crois qu'il doit avoir plus que 50 ans. Et au téléphone, nous avons Éric Poiret.
Bonjour à tous.
Bonjour Éric.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je suis là.
Ok. Dis, tu es l'auteur de deux gros bouquins. Hein. D'abord, un premier, les 45 ans d'enduro. 45 ans, oui. Le Touquet, 45 ans, et un bouquin qui est sorti là en fin d'année dernière, donc en novembre, Le Touquet, 50 ans, les héros de l'enduro. Voilà.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous raconter si ça a été facile, parce que c'est des très beaux livres hein, quand même, j'ai feuilleté, hein, les photos, les légendes, tout ça. Est-ce que c'est facile à faire hein, ce genre de bouquin?
Non, c'est pas facile à faire. C'est beaucoup de travail, en fait, compte pour ces deux ouvrages. J'ai environ 8 ans de travail.
8 ans de travail.
À peu près tout cumulé, oui. Bon, pour le premier, ça a été un peu difficile de réunir toutes les informations pour pouvoir résumer un petit peu toute l'évolution de l'épreuve. Et puis ce travail pour le premier m'a servi pour le second aussi. Donc voilà, en tout, je dirais que à peu près c'est un travail sur 7 ans en tout.
Comment tu as fait pour trouver les photos? On te les a données, on te les a transmises, je sais pas comment ça marche.
Ça c'est un peu compliqué, mais il y a différentes sources.
Voilà, les sources, voilà tes sources, oui.
Ma source principale, ça a été l'agence Main de Rue Photo, puisque l'agence a suivi l'épreuve depuis 1977 et a gentiment collaboré avec moi en me confiant tous ses négatifs. Donc j'ai une mine d'or à la maison. Et ensuite, c'était un gros travail de recherche pour retrouver un peu ce que je voulais parmi ces négatifs-là, numériser. Voilà, donc là, il y a un très très gros travail là-dessus. Ensuite, il y a différentes sources en fonction de ce qu'on recherche. Hein. La Fédération Française de Moto m'a filé des photos, depuis des photographes. Enfin, il y a différentes sources, quoi.
D'accord. On parle des 50 ans du premier enduro en 75. Hein, voilà. Mm-hmm. J'ai lu la genèse de l'enduro. Hein, c'est en regardant le film Challenge One que Thierry Sabine aurait eu l'idée de faire cette course au Touquet.
Exactement. On est à l'époque, on est dans un contexte, années 70, c'est un peu la liberté. On commence à rouler un peu à gauche, à droite, comme ça. En nature un peu librement, c'est un peu l'époque de la naissance de la discipline enduro aussi en France. Et ce film un peu a donné effectivement des idées à beaucoup de monde, notamment à Thierry Sabine, en voyant les courses de désert, les courses de masse qui se déroulent en nature avec un millier ou plus de participants. Et avoir l'idée c'est bien, après il faut encore la mettre en œuvre. Et au Touquet justement, Thierry Sabine travaillait pour la mairie du Touquet à l'époque et le maire cherchait un événement l'hiver, lui avait donné un peu cet ordre de mission de lui trouver un événement l'hiver pour réveiller la ville. Et lui pratiquait beaucoup le sport automobile, Thierry Sabine, mais aussi la moto avec des amis. Et donc, lui est venu un peu naturellement l'idée de créer cette course après avoir vu le film Challenge One, les images de toutes les belles images.
Alors, ce film, c'est un documentaire hein, sur une course en USA.
C'est ça, voilà. c'est multidisciplinaire en fait le film. D'ailleurs, dans le livre, j'explique un petit peu. Il y a tout un chapitre qui est consacré à ce film qui explique un petit peu tout ce qu'on peut y voir. Et notamment les courses de désert.
Voilà, alors donc Thierry Sabine voit ce film et donc il propose l'idée au maire de Touquet, hein, qui était Léon Zépré.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Et Léon Zépré il doute quand même au début. Hein. Il n'est pas partant. Hein. Il n'est pas trop chaud quand même.
Il n'est pas trop chaud parce que la station elle est un peu bon chic bon genre quand même hein. Donc oui. Ramener un peu oui. C'est un peu l'idée hein, ramener un peu la population
c'est pas le genre.
De la moto, c'est pas très le genre, voilà, on est plutôt sur équitation, tennis, golf au tout
c'est
cas,
ça oui, c'est ça oui.
Hein
oui.
Mais bon c'était un pari et du coup il avait aussi proposé ça à sa directrice de l'office de tourisme qui elle croyait au projet. Et donc, elle a été très très influente. Elle s'appelait Annie Cools. Elle a été très très influente pour, avec Thierry évidemment et d'autres personnes pour réussir à décider le maire qui.
Alors le maire.
On sait cette fameuse phrase Banco.
Banco, effectivement. Ça c'est dans le bouquin. Hein. Je reprends tes propos.
Exactement. Exactement. Et moi je reprends les propos d'Annie Cools.
Mais il dit Banco, mais je veux que ça se passe l'hiver.
Ah oui, oui.
Parce que l'hiver, il y a un petit souci quand même au Touquet.
L'hiver, il y a un souci au Touquet, c'est que la station dort.
Dort, voilà. Et la ville de Touquet paye une partie du chauffage aux hôtels.
Oui. Elle vient en aide aux hôteliers parce qu'en fin de compte, il n'y a pas d'activité, donc il n'y a pas de touristes, il n'y a personne. Et pour qu'ils puissent arriver jusqu'au printemps et l'été, la mairie, effectivement, donne une subvention aux hôtels pour les aider un peu à survivre durant l'hiver.
Voilà. Et donc, en 74, il y a un embryon d'enduro qui est mis sur pied, et sans grande publicité, hein, une soixantaine de motards se réunissent pour un aller-retour à travers Dieu entre Merlimont et Berck-sur-Mer.
Voilà, exactement. C'est
il y a un nom, hein,
on a appelé ça l'Enduro Zéro.
Zéro, hein, Enduro Zéro. Hein,
on a appelé ça l'Enduro Zéro. Il a eu lieu en février 1974, donc un an avant le vrai Enduro des Sables. C'est à l'initiative de Gilles Lamarre, qui était un très très bon ami de Thierry Sabine et dont les parents avaient aussi une résidence secondaire au Touquet, donc ils se côtoyaient là-bas. Ils roulaient aussi ensemble à moto de temps en temps, les week-ends. Et Gilles Lamarre, lui, avait organisé cet Enduro Zéro justement sous la forme un peu de ce qu'on peut voir dans le film Challenge One, c'est-à-dire quelque chose de pluridisciplinaire, avec un peu de trial, un peu de motocross, un peu d'enduro, une spéciale, et aussi une course un peu qui ressemblait à la course de désert, mais qui allait passer dans les dunes pour le coup. Et donc entre Merlimont effectivement et Berck, ils ont organisé cette petite course, il y avait d'autres disciplines, mais cette course de sable qui faisait partie d'un ensemble. Et donc ça a donné des idées aussi. On a vu que les gens à cette époque-là du coup étaient contents d'avoir fait ça, que ça pouvait marcher. Et en relatant un petit peu la réussite de son épreuve, qui était pas officielle, hein, c'était une épreuve en fait qu'il avait organisée lui, sauvagement, quoi, mais qui avait bien marché.
C'était pour voir comment ça se passait, c'est Enduro Zéro, là, voir comment c'est les petits soucis éventuellement qu'on pourrait avoir.
Oui, c'était pour faire un petit test en fait, pour un voir test, s'il y avait possibilité de faire quelque chose de plus grand. Et ça a bien fonctionné. Donc après, Gilles Lamarre a raconté tout ça à Thierry Sabine, qui n'était pas.
Il n'était pas là, il était sur une course de voiture. Hein.
Voilà, oui, c'est ça, il était sur un rallye.
C'était un amateur de voiture de course.
Et c'était un pilote, oui. Un pilote très, très chevronné.
Très
d'ailleurs.
Chevronné, oui.
Et donc, il lui a relaté un petit peu ce qui s'était passé et que les gens étaient contents. Il y a beaucoup de gens de pilotes de Paris qui étaient venus, notamment.
Oui.
Et donc, ils étaient très, très contents de cette course sur sable et étaient sans doute potentiellement enclins à revenir pour quelque chose d'officiel, quoi. Donc, voilà.
Voilà. Il y a des gens connus, hein, comme Marcel Serin, qui était aussi dans l'histoire,
oui.
Là.
Oui, ben les importateurs avaient vu aussi à travers Challenge One, ça donnait des idées à tout le monde. Hein, donc les importateurs avaient senti aussi que commercialement, il y avait quelque chose à faire en faisant des courses de masse, forcément. Et Jean-Claude Olivier aussi, avec Yamaha.
Jean-Claude Olivier aussi, oui.
Voilà, ouais. Jean-Claude Olivier, lui, était un peu plus le local de l'étape. Bon, il venait quand même rouler, il roulait déjà dans les dunes et sur la plage. Donc Marcel Serra a apporté un peu son aide à Thierry Sabine en lui fournissant des motos pour tracer un peu la piste, tout ça. Il était même venu lui-même avec certains de ses pilotes pour faire un essai de la piste quelques mois avant la course. Donc voilà, Marcel Serra a officiellement fait partie du comité d'organisation du premier Enduro des Sables.
Oui, parce qu'on parlait avec Manu avant de t'avoir au téléphone. Hein. Mm-hmm. Pour eux, pour les pilotes, c'était une première aussi. Hein, parce que pour rouler dans le sable, il n'y avait pas de terrain d'entraînement. Hein, et c'était plutôt la terre. Hein. Manu ?
Oui. Oui,
tout à fait.
Ouais.
Voilà. Il n'y avait pas d'entraînement de sable. Non, tout à fait.
Voilà, donc on se doute que c'était pas évident quand même de faire cette première édition. De l'enduro,
non, c'était une première pour tout le monde, on va dire.
Voilà.
Donc voilà. Donc après, les pilotes, la plupart étaient des amateurs finalement. Hein. C'était un rassemblement d'amateurs avec quelques professionnels qui allaient venir pour faire un peu la vitrine commerciale des marques.
Oui.
Et ça l'est toujours d'ailleurs, c'est toujours une course d'amateur avec quelques professionnels dedans. Hein.
Alors normalement, tous les participants devaient prendre le départ avec le même pied d'égalité, avec un droit d'engagement de 50 balles, 50 francs à l'époque. Alors, je ne sais pas combien,
oui,
ça fait. Combien, vous aviez, ça fait combien 50 francs en euros là ? Je ne sais pas.
Je crois que ça fait 8 euros.
Ça fait combien ?
10 euros.
10 euros, 50 balles ? Voilà.
Ah non, même pas.
8 euros.
7,50 euros, 8 euros.
Soyons larges.
Bah, disons, en 2025, il y a eu de l'inflation. Hein.
C'est pas comparable.
C'est pas comparable, ouais. Voilà. Et alors, les machines devront obligatoirement être immatriculées, dotées d'un échappement silencieux et équipées d'un système lumineux, mais on parlait avec Manu hein, qui nous a dit que certains avaient triché, ils avaient utilisé des motos de cross.
Bah oui, forcément, hein, il y avait beaucoup de systèmes un peu de magouilles.
J'ai vu dans le bouquin là, qu'ils avaient mis des phares avec des piles.
Ouais,
des
motos... tout à fait, mais... Manu peut le confirmer, je pense, hein. Il a dû avoir passé une paire.
Ah oui, beaucoup. Dit,
ouais. Ouais, bah,
tu
oui,
dis que c'est
bah,
les frères Bossin hein, qui avaient triché.
Ouais, voilà.
Il n'y a pas que, hein, mais
on va pas donner de nom.
Ah, mais c'est dans le bouquin, alors moi, je.
De toute façon, il faut.
Moi, je me suis dit qu'on pouvait le donner. Hein.
Voilà. Non, oui, c'est vrai. Après, c'est Manu qui l'a dit, c'est pas moi. Hein. C'est
un témoignage. D'accord, ok.
Mais peut-être qu'à l'occasion, parmi les frères Bossard, peut-être quelques-uns pourront nous le confirmer. Mais bon, de toute façon, c'est de bonne guerre, c'est de notoriété. À l'époque, il fallait respecter le règlement enduro.
Oui.
Et pour rouler dans le sable, bon, il y avait certains qui avaient plutôt utilisé des machines de cross parce que c'était un peu plus adapté. Et on, voilà, on mettait une pile, un phare,
oui,
une lampe, et voilà, et puis ça passait.
Voilà. Et puis ouais, maintenant il y a les pneus godets, hein, les pneus pelles là, qu'on appelle ça. À l'époque, ça devait pas exister.
Le plus célèbre pneu à godet de l'enduro du Touquet, c'est Brad Lackey en 1980.
En 80,
qui était venu avec ce pneu là, qui dégageait des pelles de sable à chaque passage. Oui. Mais bon, voilà, maintenant on a des pneus sable. Ça accroche aussi un peu plus, mais le pneu à godet, il y en a qui en avaient. Ouais.
Ouais, mais les pneus à godet ont été interdits après, hein, parce que ça levait vraiment beaucoup de sable. Hein.
Ah oui,
mais
oui,
sinon, c'était utilisé aux USA dans les courses de désert, quoi, hein, bien sûr.
Ah, oui, complètement. Oui. D'ailleurs, il y a une année où, alors qui c'était Jean-Charles Tonus avait été disqualifié de sa troisième place parce qu'il avait utilisé un pneu à godet.
Et puis quand on regarde les images hein, à l'époque, les casques aussi, c'était des casques type jet, hein, avec des simples lunettes type aviateur.
Moi, c'est ça. En fait,
et puis même le vêtement, les vêtements.
Avec ce qu'on avait, quoi.
Ouais, c'est ça. C'était vraiment.
c'est une course de vrai amateur.
C'était amateur, c'était improvisé. Voilà. Ce que j'ai vu aussi après, là ce serait impossible de faire ça maintenant, hein. Après les vérifications techniques et administratives, direction l'atelier peinture.
Oui, tout à fait. Donc chaque pilote était invité à venir avec son cercle jaune, enfin son ovale jaune,
oui,
pour mettre à côté à la plaque phare, quoi. Par contre, il y avait effectivement les services techniques de la ville qui avaient organisé un atelier peinture pour mettre les numéros. Donc on voit quand même que sur les photos, bon, il y a pas énorme, on trouve pas énormément de photos de 75, mais sur le livre, on en voit quelques-unes et on voit bien que le lettrage est le même pour tout le monde sur les plaques jaunes. Mais par contre, les plaques jaunes ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors voilà. certains ont pris le fond d'un seau jaune, enfin peu importe, se sont débrouillés comme ils ont pu. Manu nous dira ce qu'il avait pris d'ailleurs.
Vous avez pris Manu.
Mais
moi, je crois
attends, Manu va répondre.
J'avais pris une plaque de ma CZ de cross pour fixer sur l'avant de la XL, ouais.
Voilà, mais par contre, le numéro, on voit que le lettrage est le même pour tout le monde, parce qu'il y avait un atelier peinture.
Et alors, on parlait aussi du chronométrage, parce que là, actuellement, c'est un transpondeur, donc c'est facile encore.
Ah oui,
mais
oui,
à l'époque, il
n'y
avait pas de système.
À l'époque, il n'y avait pas de système, mais bon, pendant très très longtemps, de toute façon, le pointage a été manuel quand même. Hein. Je pense que jusqu'à peu près la fin des années 90, peut-être même après, Le pointage était manuel, on voyait des commissaires essuyer les... Il y avait une chicane en fait pour le pointage. Mmh. Il y avait des gens qui étaient là pour essuyer les plaques à chaque passage des pilotes pour que les pointeurs puissent voir.
On imagine.
Mais oui, bah alors là, oui, effectivement, il y a un classement du premier enduro des sables.
Oui.
Mais bon, j'imagine que le pointage a été bon. C'était le motoclub du Nord à l'époque qui était. Qui gérait l'aspect technique de la course, donc le pointage aussi, mais bon, ça y a dû y avoir des erreurs, forcément, il y a dû y avoir un peu des oublis, des choses comme ça.
Oui, parce que quand il pleut, évidemment, le sable, ça colle quand même, Manu. Mmh. Tu nous as dit que c'est pas la terre, hein, parce que la terre...
Cette année-là, il faisait beau, je me rappelle que
donc, donc, ça
les conditions étaient bonnes,
Ouais, mais il faisait très froid, par contre.
Tout à fait.
Voilà, on peut être avancé dans le temps quand même. Voilà, en 80, le parcours est appelé Enduro des Sables.
Au tout début, c'est l'Enduro des Sables.
Des Sables du Touquet, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Oui. Ouais.
Suite au plein des associations de protection de la nature, la course a quitté les dunes pour la plage.
Oui, on a fait un sacré bond en avant, puisque là, on est déjà en 2006.
Oui.
Donc en 2005, effectivement, c'est la dernière année de passage dans les dunes qui avait déjà été raccourcie en 2004. Donc le parcours dunaire complet, c'est la dernière fois qu'il a été emprunté, c'est en 2003. Voilà, avec vraiment un très très gros problème au niveau de la dune de mes villages, qui provoquait un énorme bouchon et qui a vraiment été c'est le dernier passage quoi derrière.
Alors là tu vois je te raconte un peu ce qui se passe ici dans le studio. Il y a Xavier qui a un micro pourtant qui pourrait te poser la question. Non il me l'écrit. pose la question à Eric.
Oui, salut Eric,
écoute quand même.
Salut Xavier.
Je voulais si c'est possible que tu parles un peu du vintage. Hein,
oui.
Parce que on parle beaucoup, beaucoup de l'enduro, c'est tout à fait normal, de la catégorie officielle. Mais depuis quelques années, il s'avère que le vrai vintage est un peu beaucoup abandonné, à savoir qu'on n'en parle pratiquement pas et surtout on ne voit plus de vieilles machines. Les pilotes qui ont des vieilles machines hésitent à venir effectivement avec ces machines de collection. Ça coûte très cher à entretenir et il faut vraiment avoir de la volonté pour venir avec ces vieilles machines. Et l'organisation n'en fait absolument pas cas. Il n'y a pas de remise de prix spéciale pour les vieilles machines, pour les vieux pilotes, donc je fais partie. Je prêche
en fait, il parle pour lui, Eric.
Oui.
Parce qu'en début d'émission, ça va faire 130. Lui, l'âge de sa machine et son âge, à Xavier, ça fait 137 ans.
Hein. 137. Le
couple, ça fait 136
ans. Et...
Voilà. Donc, voilà, la question, donc, c'est, qu'est-ce que tu penses qu'effectivement, on voit beaucoup de machines qui sont équipées des fourches de motos modernes. On parle pas du moteur en plus, on ne sait pas ce qu'il y a dedans.
Je me souviens de.
Pour le vintage.
Je me souviens d'une réflexion qui m'avait été faite en voyant une moto de vintage, mais super préparée par des champions qui ont gagné plusieurs fois le Touquet d'ailleurs, on ne va pas les citer. Et on m'a dit, tu vois, la fourche de ce mec-là, elle vaut autant que ta moto. Donc c'est te donner une idée de ce qui est devenu le vrai vintage, quoi, qui perd un petit peu de...
Voilà, tu comprends qu'il y a, bon, il y a un souci pour Xavier.
Pour beaucoup d'amis et de pilotes qui ont toujours envie de rouler sur des vieilles machines et en faire la démonstration. Et je trouve
c'est quelque chose qu'on entend assez fréquemment, effectivement, autour du parc, hein, quand on est sur place. Maintenant, bon, moi, je ne fais pas partie de l'organisation. Donc, après, je pense que toutes les idées peuvent être bonnes. Il faut les proposer pour des classements de classe, en fait, justement, avec des machines peut-être plus vintage et un classement pour les motos, je ne sais pas, moi, d'avant 1980, par exemple. Donc, c'est un exemple. Pourquoi pas? Je ne sais pas si c'est réalisable, parce que, une fois de plus, je ne connais pas tous les aspects techniques en termes d'organisation, etc. Donc, je n'en fais pas partie. Donc, à savoir que déjà le règlement avait changé puisqu'au départ on était sur des motos d'avant 1990, me semble-t-il.
Ouais.
Et il y a quelques années, on est passé à 1996.
Alors, on rajeunit de plus en plus. Donc,
De mémoire, c'était pour s'aligner sur les règlements internationaux, parce qu'il y a beaucoup de courses vintage et des championnats vintage en Belgique notamment, je crois, et les motos étaient 96, donc c'était un alignement, si mes souvenirs sont bons, des règlements. Donc là, effectivement, les motos au tout début, donc le premier enduro pas vintage, c'est 2015, hein, pour célébrer les 40 ans. Il n'y avait pas beaucoup d'engagés, il y avait 150, je crois, de mémoire. Il y avait peut-être plus de motos vintage, effectivement, dans les premières années. Maintenant, les motos aussi, elles vieillissent. Les pièces aussi sont peut-être plus difficiles à trouver quand on casse. On est passé de 150 pilotes à 750 maintenant, là. 720, je crois, ou 750, là.
Ça fait beaucoup, quand même.
D'ailleurs, je crois que notre ami Xavier aura le 722.
Exactement, tu es bien renseigné.
Voilà. Oui, quand même, je suis bien renseigné.
C'est pas moi qui vais avoir le numéro, c'est la moto qui va avoir ce numéro.
C'est la moto qui va avoir le numéro.
On ne me fait pas porter de plaque jaune encore cette année.
Ah non, il n'y a pas de plaque jaune de toute façon en vintage. Mais d'ailleurs ce serait une bonne idée de mettre une plaque jaune pour célébrer les 50 ans, comme les motos, les plaques jaunes du 75.
Mais voilà. Moi, mes plaques seront jaunes.
Avec des numéros pas... Pas à la main.
Avec des numéros peints à la main.
Pas à la main, ce serait bien. Ça, c'est le vrai vintage.
Ce serait bien, mais je ne suis pas sûr qu'aux vérifications,
non, ils vont pas aimer.
Soit bien accueilli.
Oui, je me doute.
C'est un peu compliqué. Ouais. Bon, bref, toujours est-il que, voilà, donc effectivement, tous les motos, peut-être aussi, il y a plus de dangerosité d'abîmer sa moto. J'imagine que quand Xavier roule, s'il roule avec 150 pilotes sur la piste et 750 pilotes, il y a quand même plus aussi peut-être de danger d'abîmer sa bête de collection.
Il y a des risques, effectivement, mais
il y a plus de risques. Enfin, voilà.
Ça fait partie du jeu.
J'ai quand même noté sur la liste des participants, j'ai quand même noté un petit peu de la Maiko, de la Montessa, donc la CZ, forcément, de la Beta, de la Kramer, JLD. Ouais. Donc, il y a encore quelques
KTM
quand même.
Qui la KTM.
Oui, alors là, je parle vraiment pour les anciennes, les motos et des marques un peu, on va dire, moins connues. Mais il y aura certainement des vieilles YAM, des vieilles KTM. Tous les ans, il y a des KTM liquides, etc., de début des années 80.
Refroidissement à air aussi, hein.
Il y a comment ?
Refroidissement à air aussi.
Oui, bien sûr.
Oui, il y en a.
Avant 80.
Voilà. Ce que j'ai noté, c'est bien, c'est parce que les pilotes qui participent le dimanche à la course de l'Enduropal ne peuvent pas s'inscrire au vintage.
Ils peuvent plus.
Oui.
Oui, parce que ça faisait un entraînement pour eux, et donc ça a limité les inscriptions. Et puis peut-être des gens qui n'ont pas cette idée de vintage, de faire revivre les vieilles machines, quoi.
Bah, c'est un peu pour toutes ces raisons-là, en effet. Après, voilà, ça concernait en tout à peu près 60 pilotes. C'est tout.
Bah, écoute, voilà. Très bien. Bon, on va terminer cette interview, hein, parce que ça fait quand même 22 minutes que l'on discute, Eric. Tu te rends compte ?
C'est les 50 ans. Hein.
Et c'est les 50 ans, je reconnais que
ça
prend
du temps.
C'est
un beau livre pour les 50 ans, il faut en parler.
Et c'est un beau gros livre pour les 50 ans, effectivement.
Merci pour ce livre, hein, parce que moi j'ai adoré, et c'est vrai qu'on se retrouve dedans, pour les plus anciens, on apprécie, quoi, retrouver un peu des images qu'on a vécues, quoi, enfin voilà.
Voilà.
C'est un bouquin qui est agréable à avoir, à posséder, à consulter. Et vraiment, il a toutes les qualités.
C'est gentil, merci beaucoup. Mais c'est
même
de faire le
prix,
plus bel objet
même
possible,
le prix est intéressant.
Oui, 5 euros, je crois.
C'est pas
5 euros. Le
c'est
prix.
Vrai que
non, mais je rigolais.
Le
là,
prix,
voilà.
Non.
Dis, Eric, si on fête 50 ans là, dans 21 jours là, c'est le départ, hein, de toute façon de l'enduro. Mais il n'y a pas eu 50 courses.
Non, il y a eu deux éditions qui ont été annulées.
Alors en 91.
En 91, à cause de la guerre du Golfe et de l'absence de moyens de sécurité suffisant pour une manifestation d'une telle envergure. Donc l'armée était un peu réquisitionnée ailleurs et c'est bien compréhensible. Et aussi, je pense qu'à l'époque, le plan Vigipirate était dans ses premiers... une des premières fois où il y avait le plan Vigipirate, et donc toutes les forces de police également, l'organisation n'avait pas les moyens d'assurer la sécurité de tout le monde pour un tel événement. Oui. Et puis 2021, le Covid. On va dire quand même que c'est, il y a que deux événements très très majeurs quand même, une guerre et une épidémie mondiale qui ont empêché l'Enduropal de se tenir, de se tenir. C'est quand même fort, quoi.
Et alors réellement, donc, ce sera la 49e édition. 48e édition. Non, 49e.
La 49e édition.
Voilà, 49e édition, dans 21 jours. Voilà.
Dans 21 jours, et dans un an, 2026, la 50e édition. Il y aura également des festivités en 2026 pour célébrer la 50e édition. J'aimerais bien, en tout cas, une réunion des anciens vainqueurs.
Ça serait bien.
Ouais. Voilà, donc.
Mais faut se dépêcher, parce qu'il vieillit, ça.
Il y en a plus beaucoup. Hein.
Alors, c'est ce que j'allais dire. Si, il y en a encore beaucoup, mais malheureusement, il y en a certains qui nous ont quittés.
Jacques Vernier est décédé, le vainqueur de l'édition 75.
Oui, Jacques Vernier est décédé, il y a déjà 5-6 ans. Tout à fait.
Voilà, et donc, en 2022, initialement prévu le 28, 29, 30 janvier, c'est reporté, c'est toujours à cause du Covid, au 25 et 27 février. Il y a eu un déport de date.
Voilà. Oui, tout à fait, c'est ça.
Voilà, et bien je pense qu'on a... Est-ce que vous avez des questions, Philippe, Eric, pour terminer cette interview là ?
On aurait plein de questions, mais
oui.
Ça fera l'occasion d'un autre, d'une autre rencontre.
Voilà, Xavier ?
Oui. Bah Xavier, je pense que j'aurai l'occasion de le rencontrer, peut-être, j'irai le voir dans le parc.
Ce sera avec plaisir.
Ah, il sera identifiable, il a la seule vraie vintage du parc.
Le maillot jaune avec l'inscription CZ,
On ne peut pas le louper.
Très bien Eric, écoute, on te laisse parce qu'on sait que tu as un rendez-vous là urgent, et puis on a un peu dépassé le temps de parole, mais c'est pas grave, c'était très intéressant. Voilà, et écoute, merci, on espère beaucoup. Se retrouver peut-être dans 20 jours, là, 21 jours, donc là-bas au Touquet.
Peut-être, j'espère que toute votre équipe viendra au Touquet pour célébrer l'événement, hein. Ce serait super, et on attend beaucoup de monde, et des belles choses. Il y aura des très très belles choses, notamment un musée éphémère que l'organisation est en train de mettre en place. Moi j'apporte une petite contribution à cela, feu d'artifice, des conférences, des participants. Je vais pas donner de nom, mais à course vintage notamment, peut-être une surprise, une chose comme ça, on verra.
Ok, très bien, merci Eric, et écoute, on te souhaite de passer
merci
un bon dimanche.
Bon dimanche à vous également.
Et puis à bientôt.
À très vite.
Merci.
À bientôt.
Salut,
au revoir.
Eric.
Merci à vous.
Au revoir.
Salut, au revoir.
I've been
y a presque 50 ans, le 16 février 75, à 10h, Emmanuel Couteau mettait plein gaz sur la plage du Touquet. Manu, c'est bien vrai, t'étais au taquet ?
Ah, plus
t'étais
que
embuté,
taquet.
T'étais embuté
ouais,
à la poignée.
Vraiment embuté, ouais. Avec ta 250,
c'est vrai
avec ta 250, il fallait. Ouais.
Ça faisait quelle vitesse ?
Ouais, ça faisait un petit 120 au compteur.
120 au compteur ?
Ouais, peut-être.
Ça bouffe de la puissance, hein, quand même, le sable.
Le sable, ouais, mais en se mettant à la limite où c'est un peu dur, cherchant le dur.
Mais il ne faut pas trop aller sur le mouillé quand même.
Non. Faut...
Parce que là, on risque de.
Mais de toute façon, on le sent tout de suite. Hein,
il m'est arrivé des soucis l'année dernière.
Ah, ouais.
À l'arrêt. Je me suis enlisé.
Ah oui.
Oui, c'est vrai que c'est pour toi. Hein. C'est une info. Hein.
Merci.
Évite d'aller un peu là où, quand la mer vient de se retirer, tu sais, le sable est encore mou. Ça fait sable mouvant, en fait.
Et puis, okay, les bâches.
Alors, les bâches, oui, bien sûr.
Quand mais, tu commences à voir les tons, c'est bon, t'arrêtes.
Isaac, tu as pris conscience de ça, hein ?
Oui, j'ai pris conscience. Ouais. De toute façon, le but, ça va être déjà dans un premier temps de prendre ses marques avant de mettre la poignée dans l'angle en butée, comme disait Manu. Mais non, ouais, en effet, j'ai déjà regardé un petit peu comment ça se passait. C'est vrai que je pense que l'eau, ça reste un danger et quelque chose à éviter.
Alors, donc, Manu, toi, il te conseille de plutôt d'aller à l'endroit où c'est pas tout à fait sec, mais pas trop mouillé quand même, tu vois, c'est pas évident, c'est ça.
Mais Manu, l'important, hein, on la sent, hein, la moto, elle ralentit.
Mais il faut que tu donnes des conseils aux jeunes.
Oui, tout à fait, on sent, de toute façon, avec la portance qui devient bonne ou moins bonne, la moto, elle ralentit ou elle accélère.
Est-ce que tu avais changé la démultiplication
Non,
pour tirer plus court ou plus long?
Non, on avait laissé l'origine, parce que plus long, la moto, elle ne veut pas le prendre, hein, y a pas assez de
chevaux. Ah, plus long, t'as pas...
Voilà, donc on était resté sur la transmission d'origine.
Oui, puis après, dans les dunes, c'est pas si plus long.
Après, trop long, après, on n'y arrive plus, quoi.
Voilà. Bon, alors ça, tu l'as fait combien? Deux, trois fois, hein.
Moi, j'ai fait trois fois, ouais.
Voilà. Et après, là, tu passes mécanicien.
Après, je passe mécanicien, ouais.
Alors, raconte-nous un petit peu, tu es devenu mécanicien, quoi, des pilotes de renom connu.
Déjà, c'était mon travail, hein. J'étais mécanicien moto, hein, donc dans une concession. Et puis, j'ai commencé à préparer des motos pour le SAP, parce qu'on avait pris un peu l'habitude. Et puis, en 81, j'étais concessionnaire KTM. Et en 81, Royal Moto, donc l'importateur KTM, dont Kerel, qui était un des associés, et qui lui faisait le championnat de France d'enduro, m'ont demandé pour m'occuper de la moto de Joël Kerel sur toute la saison. Donc j'ai fait sa moto toute la saison. Et puis il est devenu champion de France. C'était sa dernière année, il est devenu champion de France. Et de fil en aiguille, comme on roulait déjà nous dans le sable, quand KTM a décidé de venir au Touquet, ils m'ont demandé de les aider un peu. Donc nous, on avait déjà un peu d'expérience du sable, un peu les réglages. Donc voilà, j'ai eu la moto à Grou à faire quand il a fait 3e en 82, je crois. Et au début, quand Royal Moto a fait venir les pilotes d'usine pour espérer gagner, ce qui s'est passé d'ailleurs, les pilotes d'usine sont venus avec leurs mécaniciens, leurs camions, leurs ingénieurs, et ils nous avaient demandé de prévoir un petit peu les consommations des motos pour arriver avec des contenances de réservoir qui conviendraient pour le nombre de tours, tout ça. Donc nous, on leur a donné un peu nos éléments qu'on connaissait, des réglages, des consommations, et puis on était allé rouler aussi un peu en dehors du Touquet pour essayer les motos. D'ailleurs, à cette époque-là, Kerel y avait serré une 420. Finkeldé en 82, il y avait serré sa moto aussi. J'ai refait sa moto dans le camion jusqu'à 9h du soir. Voilà. Et donc, tout ça, c'est des. Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça, exactement.
Bon, il y a l'époque aussi Kees van Erven.
Alors après, Kees van Erven, il était là dès le départ, hein, mais eux, c'était un Hollandais avec leur mécanicien. Le sable, c'est leur bac à sable, hein, ils connaissent parfaitement. Mais pareil, l'ingénieur était venu nous demander ce qu'on avait mis comme réglage, ce qu'on consommait, voilà. Et puis après, van Erven, il a fait ce qu'il sait faire, hein, il a gagné, quoi, évidemment.
Je crois que c'est 5 fois.
Cinq fois de suite, ouais.
D'affilée, hein.
Tout à fait, ouais. C'était un pilote exceptionnel, hein, hyper calme. Il arrivait, on faisait partie des ravitaillements de chez Royal Moto. Donc c'est nous qui faisions les ravitaillements des motos, regarder s'il n'y avait pas de problème, mais Kees Derven y arrivait lentement, pas énervé, et on avait le temps de regarder la moto et elle repartait tranquillement. Il y avait l'assurance qui était dans les bons, donc il n'y avait jamais d'énervement avec lui, jamais. Et donc, ce qui fait, c'est qu'il a quand même gagné 5 années de suite.
Donc, on voit qu'au fil des années, donc, la technique, ça s'affine.
L'expérience.
Alors, maintenant, c'est des moteurs à injection, je pense.
Moteurs à injection. Donc, maintenant, il y a des plus... temps.
Mais à l'époque, c'est des carburateurs.
Il faut tout adapter.
Raconte-nous un petit peu au niveau, il faut plus riche, moins riche.
Il faut changer les gigleurs, il faut adapter la carburation.
L'hydrométrie, la température.
La température est très importante. Hein, entre 12-15 degrés et 1 degré, c'est pas du tout pareil. Il faut enrichir, mais pas trop. Si par malheur, la température elle augmente à l'heure de la course, là on devient trop riche. Donc c'est toujours un choix.
Comment tu fais? Vous avez des.
On a des petits.
Un abac
Non, on essaye la moto, on fait tourner la moto, on essaye la moto suivant le temps. Chaque moto, elle n'a pas exactement le même réglage. Parce que le moteur n'est pas pareil, on n'a pas la même compression, il peut avoir des modulations dans les réglages. Ça, c'est un peu l'expérience, un peu la chance, hein, parce qu'il faut avouer que quand il y a des changements de température ou des conditions qui changent, c'est pour ça qu'il faut toujours garder une petite marge. Si on c'est pas là que la moto elle marche le mieux, mais on a une marge de sécurité. Sinon, on peut jouer avec le feu, la moto elle marche mieux, mais c'est dangereux. Et là, ça peut serrer. C'est ce qui arrive souvent.
Et puis aussi, au niveau de l'essence, il faut... Parce que maintenant, je suppose qu'on... Pour limiter le poids de la machine, on essaye de mettre la quantité juste nécessaire pour l'essence.
Là, c'est pareil.
On peut consommer plus ou moins suivant la température.
Suivant l'importance du sable ce jour-là.
Oui, c'est ça aussi. On va en parler avec Philippe Possy, qui participe au vintage aussi. On a des années où le sable est fin ou des années au contraire. Il est très dur, il est compact.
Ça peut faire varier la consommation aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours se garder une marge, une marge de sécurité, parce que la panne d'essence au Touquet, c'est fini, la course elle est morte.
Et les bouchons. Les fameux bouchons dans le temps, moins maintenant. Où on pouvait consommer énormément.
Mais bon.
Alors, moi, je me souviens d'une histoire avec quel pilote, histoire de silencieux, là. On ne change pas son silencieux pour avoir un peu plus de puissance.
Il y a eu un problème, c'est avec...
Comment ça s'appelait
Yves Dedon.
Il s'est fait déclasser à cause d'un silencieux.
Alors, on le proclame vainqueur, et une heure après, on dit, finalement, il est déclassé. Ouais. C'est pas très professionnel, de la part de l'organisation du Touquet. Je me souviens cette histoire-là.
Tout à fait, il s'est fait piéger avec ça, et donc c'est Pichon qui est déclaré vainqueur. Mais Pichon, ils ont changé son silencieux
un tour avant.
Voilà, ils se sont doutés que...
Est-ce que c'est normal?
Moi, je dis que c'est le règlement, donc on ne peut pas le discuter. Mais c'est quand même malheureux que Dedon ait perdu Dedon la est course perdu, à cause de ça, alors qu'il avait gagné sur
le
terrain.
Il avait gagné sur le terrain.
Voilà, c'est un gros problème.
Et c'est arrivé qu'une fois, cette histoire.
Et
Jean n'était pas n'importe qui non plus, comme par hasard.
Il était champion du monde,
Champion du monde de motocross.
Ses mécanos et son organisation ont fait le nécessaire, si tu veux. Voilà, puis ils n'y ont pas pensé, et puis voilà quoi.
Donc ça veut dire que tout ça, les carbus, les gigles, le réservoir, le silencieux.
C'est tout un ensemble
Tout ça, ça fait que tu.
Que
tu
ça es, se passe bien,
ça
ou
se passe
moins
bien.
Bien.
Ou moins bien. Ou terriblement moins bien.
J'ai connu le terriblement moins bien. De nombreuses années.
Bon, Isaac, tu as noté?
J'ai noté, merci Manu.
Je pense que ta moto, c'est une injection.
Ouais, ma moto, c'est une injection. Donc, elle est 2024.
Automatiquement, non, il y a quand même des petits réglages à faire quand même.
Non, ça s'adapte automatiquement.
Automatiquement. Bon, voilà. Ouais. Allez, on passe à un morceau de musique et après on se retrouve avec Philippe qui participe donc au championnat des sables en vintage.
Une partie.
Il y a 6 épreuves dans ce championnat.
En vintage, il n'y en a plus que 5, puisque on ne parle pas des sorties du
vintage. Oui, voilà.
Mais il y en a 6 en totalité.
Tout de suite après le morceau de musique.
Seem to be overloading. I need a minute to breathe and nothing else.
Alors, à votre avis, c'est quoi? C'est une KTM, une CZ, une, ce que ça, vous venez d'entendre?
C'est une 250 déjà, c'est sûr.
C'est une 250, oui. Laurent, ouais.
Peut-être bien une.
Nous fait signe que oui. Ouais.
Ouais, ça peut être une 250 mono, évidemment, deux temps. Ça peut être une...
Oui, deux temps,
mais
oui.
Mais ce serait bien une KTM.
Ouais, ah,
c'est ça.
Ah, voilà. Et, bon, ben bah, écoute. Ah bon, on a plein en stock, ah comme ça. Hein. Ah bah, on peut faire une émission. Hein.
Ah, on peut
faire une émission, là. C'est pas comme ça. Voilà. Bon, Philippe, alors toi, oui. Tu participes au calendrier de CFS, donc des courses sur sable. Voilà, c'est
championnat
ça.
De France,
donc, championnat de France. Sable, hein. Donc, tu as participé à Lune-Plage.
Oui, la ronde des sables de Lune-Plage en octobre. Voilà. Ouais.
Et aussi à Graillon-l'Hôpital.
Ouais, la guerre TT, ouais.
Voilà. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est d'abord, est-ce que l'ambiance est la même là-bas sur, et Graillon-l'Hôpital, c'est sur la plage?
Alors non,
dans les dunes.
Il y a encore, enfin, je pense deux ans maintenant que c'est supprimé la plage, même pour l'épreuve du dimanche, enfin les quads, etc. Pour des raisons environnementales d'ailleurs, entre autres. Donc du coup on prend plus la plage. Et les vintage d'ailleurs n'avaient jamais pris. Enfin en tout cas de moi de l'épreuve ça va faire 3-4 ans que j'ai fait. Et donc on prenait pas la plage non plus. On avait un circuit plus réduit pour ménager un peu les machines, hein, aussi. Je pense que c'est aussi cette raison.
Oui, la longueur de la ligne droite, est-ce que c'est pareil au Touquet?
Non, là, il n'y a pas de ligne.
Il n'y a pas de ligne droite.
Si, il y a une ligne droite, mais très courte.
Très courte.
Voilà, oui. Dans le massif forestier, puisqu'en fait, pour la GURP, hein, en tous les cas, ça se déroule dans le massif Les Pins. D'ailleurs, c'est une très jolie épreuve. Moi, c'est aussi pour ça que j'y vais. Ça me rappelle un peu mon enfance. Et donc, du coup, on navigue entre on pilote entre les arbres. Là, c'est une piste qui est sympa. Voilà.
Très bien. Mais il y a autant de spectateurs.
Il y a beaucoup de monde. Alors justement,
c'est pas si populaire que le Touquet, quand même.
Bah, il y a quand même du monde, hein, très oui. Sincèrement. Alors effectivement, c'est pas le Touquet, mais là cette année ils ont battu un record. Il y a plus de 1400 pilotes en totalité. Donc c'était un record aussi pour eux.
Avec la course et les vintage.
Ouais, avec l'ensemble des pilotes.
Est-ce qu'il y a les mêmes catégories, les
oui.
Juniors,
ouais,
les
ouais,
espoirs,
ouais.
Les quads?
Toutes les catégories sont là présentes. Ouais.
D'accord. Et donc, il y a combien? Il y a 5 courses sur Vintage? 5
Là, sur le Vintage...
5 rendez-vous à partir d'octobre?
Ouais, ça commence là en octobre avec la Berck. Après, il y avait la Ronde des Sables à Lune. Après, on avait Osgore. Après, la Lagune Saint-Léger de Balzon, la Garp TT de Graillon, et puis bon, on finit par l'enduro, mais qui lui est sorti du CFS.
Oui, alors on en parlait tout à l'heure avec Xavier, qui n'est pas content parce qu'il se dit finalement, maintenant dans le vintage, il n'y a plus de vraies vieilles machines. Et apparemment, carrément, c'est une course à. On est le même. Le vintage, puisque de toute façon, il y a un championnat.
Alors bon, là,
il y a un classement, il y a un championnat.
Exactement.
Est-ce qu'on gagne de l'argent ?
Il y a deux catégories.
Il y a une prime ?
Alors oui, je crois qu'il y avait, par exemple, à Lune Plage, il y avait une prime pour les V2. Bon, donc, si je dis pas de bêtises. Mais en revanche, bon. Moi, en tant que pilote, non. Je ne fais pas forcément ça pour ça.
Non, mais je suppose qu'il y en a qui viennent pour ça.
Alors, oui, en tous les cas, dans la catégorie V1, les pilotes qui sont devant, c'est pour gagner, de toute manière.
Ouais. En vintage
En vintage, oui.
Que ça soit, explique la différence entre V1 et V2.
Alors, V1, c'était plus performant. Les V2, c'était plus performant que les V1.
Alors, oui, surtout chez Hitler.
Les V1, en fait, c'est toutes les motos. Et les V2 sont les machines bi-amortisseurs ou cantilever.
Ah oui.
Donc, moi, ça fait deux fois que je râle. Jusqu'à maintenant, j'avais rien dit. Mais c'est vrai que quand j'ai vu passer sur les podiums des gens qui passaient avec des motos qui étaient beaucoup plus modernes que les miennes, ça n'a pas de sens. Donc, si la Fédération française organise un championnat avec des catégories, que ces catégories soient respectées et que l'on contrôle.
Non, ça n'a pas de sens.
Voilà, donc moi j'ai une machine, un 390 KTM de 81, bi-amortisseur, bi-tambour, refroidissement à air, il n'y a pas de souci, enfin c'est visible hein, très clairement. Donc la seule chose c'est qu'il faut que les organisateurs se donnent les moyens de vérifier tout simplement.
Bah, c'est surtout les contrôles techniques, hein. Il y a des contrôles techniques moto, c'est à eux de dire cette moto-là c'est une V2 ou pas une V2. Parce que là ils laissent rouler en V2 des V1. Ce qui est absolument normal. Et au classement, il se retrouve troisième alors qu'il était premier des V2.
Voilà. C'est vraiment le souci de cette catégorie vintage. Voilà.
Mais
Xavier, alors toi,
personne ne prend ça en main sérieusement.
Toi, donc tu vas participer donc avec ta CZ de 1964.
Oui, avec laquelle j'ai participé. Ton but, en 2016.
But, toi, ton but, Xavier, c'est de participer, mais de montrer ta moto, c'est ça. Hein, c'est,
entre autres,
et d'être réuni avec parmi les autres motards,
les copains, rouler avec des copains, faire plaisir, et puis c'est ça.
C'est te faire plaisir, voilà.
Absolument. Et puis faire tourner la machine et effectivement montrer qu'on peut encore participer au Touquet avec une très vieille machine, puisque la CZ est de 1964.
Voilà, et c'est un monocylindre de temps.
Oui, monocylindre de temps, 380 cm3, deux échappements. C'est pour ça qu'on la dénomme Bitube.
C'est la première fois que tu vas l'engager dans cette course vintage au Touquet,
là ? En 2016, j'ai tourné avec elle.
On le voit dans le livre. Hein,
Elle est dans le livre des 45 ans, d'ailleurs, l'année 2016. Elle est en photo, d'ailleurs.
Ah ben, c'est une moto qui est robuste,
très
costaud.
C'était des motos, ce sont les premières motos qui ont mis fin aux Anglaises, en fait, aux Triumph, BSA et autres.
C'est
les
la suprématie motos, des Anglaises.
Oui, motos tchèques qui sont arrivées, qui ont gagné les championnats du monde pendant une dizaine d'années. Des motos très, très robustes. Absolument.
Comme son pilote. Plus, ça, maintenant.
Comme le pilote. Enfin, j'espère. On verra ça après le Touquet, hein, on en parlera.
Et c'est le frangin qui fait la mécanique.
Ah bah, y a
les
intérêt,
réglages carbu, parce que là, c'est carbu. Hein.
Là, c'est carbu, il n'y a pas d'injection, à moins de souffler dans le carbu de temps en temps. Mais
c'est Manu qui. On n'en parle pas de ça, mais effectivement, il faut faire attention. Hein. Il faut mettre des chaussettes hein, sur les filtres à air. La chaussette, pour un auditeur qui ne sait pas ce que c'est qu'une chaussette, il met des chaussettes sur les motos. Non, c'est pas sur les pneus. Hein,
c'est un filtre très fin qui vient en plus du filtre d'origine. Et qui effectivement empêche toute pénétration de sable, mais ça doit être
préparé. Et ça c'est très important, ça, hein, parce qu'il y a un petit grain de sable, Manu. Ah ben,
tout à fait.
Un grain de sable, c'est qu'a dû le dire.
Bah, un grain de sable dans le moteur, c'est une catastrophe.
C'est une cata, hein.
Mais c'est vrai que tu parlais tout à l'heure.
C'est une cata.
Vous parliez de.
Zach, prends note. Hein.
Mmh. C'est noté, c'est déjà.
N'oublie pas de mettre des chaussettes dans tes bottes aussi.
Mais tout à l'heure, vous parliez des réglages avec Manu, là. Mais effectivement, moi, j'ai cassé énormément avec la 2,5. C'est pour ça que maintenant, je suis passé en 390 aussi.
Avec la 390 de Xavier.
et grâce aussi à Manu, hein, ses compétences et son expérience, du coup, ça m'a permis aujourd'hui de fiabiliser quand même la machine. Donc, effectivement, même là. À Graillan, par exemple, j'avais fait les réglages la semaine d'avant à Lune Plage, il faisait 1 degré. À Graillan, il a fait 8 degrés.
Ah, c'est pas pareil.
Et j'étais trop riche et j'arrivais à pas tenir ma troisième. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que elle prenait pas ses tours comme il avait. Donc, voilà, le choix est quand même important hein, en termes de réglage. Ouais.
Bon, Isaac, qu'est-ce qui t'a pris de participer en Enduropal ?
Bah, j'ai toujours eu l'ambition de le faire, parce que voilà, étant petit, je voyais la course à la télé.
Et voilà, voir tous ces pilotes s'élancer sur la plage du Touquet à fond de balles comme ça, en toute insouciance, ça m'a toujours donné envie. Et donc voilà, j'ai commencé sable depuis maintenant 8 mois. Et voilà, donc avec tout ce qui va avec, hein, préparation de la moto, préparation du pilote aussi. Enfin voilà, tout le.
Tu t'es entraîné à Lune Plage ?
Ouais, c'est ça, je me suis entraîné à Lune Plage, donc ça fait maintenant 4 mois que j'y vais au moins une fois par semaine.
Ah oui ?
Si ce n'est deux.
Donc ah, t'es assidu, hein ?
Ouais, je suis assidu, ouais, carrément.
Parce que moi, j'en connais qui se sont inscrits en vintage et qui n'ont pas encore fait de décès. Hein.
Non,
pas d'échauffement, rien du tout. Ils savent même pas si le carburateur il marche bien ou pas.
Il
n'y
a pas eu encore d'essai.
Il est juste à côté de moi, là, il parle.
Mais bon, c'est une expérience, on va voir. Aucun entraînement depuis 5 ou 6 ans. La moto, je l'ai sortie.
Tu vois,
on va voir, c'est un test. On va voir si ça tient.
Ça va être une belle aventure.
Tu as ton team, t'as les mécanos déjà de prévu.
Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai déjà donc deux potes qui vont me faire le ravitaillement, parce qu'en fait avant, donc je regardais un peu les règlements des années précédentes. Faut savoir qu'avant on pouvait être jusque 3 par pilote au ravitaillement.
Ouais.
Et donc là depuis cette année, maintenant c'est 2 personnes.
Deux. Oui.
Et donc voilà, donc j'aurai deux potes qui seront là pour me faire l'assistance et la mécanique en cas de besoin. Mais bon, j'espère que tout se passera bien de ce côté-là.
Ah oui, nous aussi, on espère. Hein. Écoute, pour une première quand même. Hein. Ah Manu ?
Ouais, tout à fait. Oh
oui.
Mais je peux te donner un conseil.
Donne un conseil, oui.
Ouais, surtout, c'est de faire attention à l'embrayage dans les bouchons.
Alors, l'embrayage, okay. Attention.
Parce que ça, c'est catastrophique. Hein. Déjà, tu vas griller l'embrayage si tu insistes vraiment. Il vaut mieux, quand tu as un gros bouchon où c'est inextricable, vraiment. Il vaut mieux arrêter le moteur.
Ok.
Hein, parce que systématiquement, ta température d'eau, elle va monter. Au-dessus de 110 degrés, ton bouchon, il va déclencher. Tu vas perdre de l'eau. À partir de là, tu auras moins de refroidissement. Il ne faut pas oublier que ton embrayage, il dissipe sa température dans l'huile du moteur. Hein, les disques chauffent énormément et tu dissipes cette température dans l'huile moteur. Et l'huile moteur, elle le met dans les carters et dans l'eau. Donc c'est pour ça qu'après, tu as beau avoir de l'eau dedans, elle va chauffer
quand même.
Elle
va chauffer,
ouais. Voilà.
Je comprends tout à fait. Bah écoute,
t'as bien fait de venir.
Voilà. J'ai bien fait de venir et j'ai une petite anecdote là-dessus justement. Je vais juste après l'émission justement changer tous mes disques d'embrayage.
Ah, tu fais bien. Ouais.
En préparation de l'événement et donc demain je vais roder ça à Lune Plage pour pouvoir.
Alors t'as quel numéro de dossard ?
Le 783.
On note ça, 783.
C'est
si
ça.
Si on te voit sur la plage, hein, 783, c'est Isaac.
Exactement.
Voilà. 224.
Et 224. Et voilà. Et pour le vintage. Pour le vintage, donc ce sera du vendredi.
Mmh.
Toi aussi, Xavier ?
Mmh. Ah, oui.
Oui. Donc, quel numéro de dossard ?
722.
Voilà, 722. Voilà.
Alors,
chers auditrices, auditeurs, si vous voyez, c'est des numéros de dossard, c'est eux. Ils étaient là à la radio. Voilà.
Et les mecs qui roulent plus doucement, les mecs qui sont derrière,
c'est ça, nous. Qui prennent du plaisir, avant tout.
Ça t'a coûté cher un peu cette,
Ouais, quand même. Ouais. En fait, si on met vraiment tout bout à bout, que ce soit déjà les frais d'essence pour se rendre à Lune Plage une à deux fois par semaine, les consommables sur la moto, hein, on parlait tout à l'heure des filtres à air, mais bon, il y a des chaussettes, mais bon, il n'y a pas que ça. Il y a également la chaîne qui doit être avec des joints toriques. Il y a également donc les pneus sables dont on parlait tout à l'heure. On a, après c'est différent aussi en fonction des feelings qu'on a et de ce qu'on recherche aussi dans sa pratique. Mais bon, moi j'ai également fait une préparation au niveau de mes suspensions. Donc pour que ce soit pas non plus trop mou, parce que dans le sable on fatigue beaucoup aussi au niveau des bras. Sur une course de 3 heures, il est aussi, je pense, important de mettre toutes les chances de son côté pour pas avoir une machine qui soit adaptée à sa pratique et à son pilotage. Mais oui, voilà, c'est ça. Il y a les huiles, il y a les changements d'embrayage, le câble de gaz. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses qui font que ça
l'engagement.
Coûte
des... L'engagement.
Qu'est-ce que tu... L'engagement également, ouais, bon, la licence.
Je pense qu'il est, bon, Manu, petit jeune. Hein.
Ouais, il va faire bien, je pense.
Il connaît pas mal de choses.
J'ai confiance,
hein. Ouais, voilà. On m'a dit que tu t'es blessé quand même.
Oui, je me suis blessé il y a de ça 3 mois en fait. C'est des choses qui arrivent, mais j'ai fait un par l'avant lors d'un entraînement. Et donc je suis retombé en fait au niveau de la cage thoracique sur le guidon.
Oh yeah.
Et donc ça m'a fait quelques commotions au niveau pulmonaire. Oh, et donc c'est vrai que j'avais mon pare-pierre. Ouais. J'avais mon pare-pierre.
Ça fait quand même.
Mais j'ai quand même eu le.
D'accord.
C'est le métier qui commence à rentrer.
C'est ça, exactement.
Tu sais que ça s'appelle. appelle un OTB, ce que tu as fait.
Ouais, c'est ça, ouais. OTB qui, du coup, veut dire
over the bar, au-dessus du guidon.
Ouais, voilà, bah, c'est exactement ce qui s'est passé, ouais.
Un OTB. D'accord, bon, bah, écoute, voilà, on sait tout. Bah, donc, messieurs, bah, l'émission se termine. Il nous reste quelques minutes, on a le générique, voilà. Isaac, bonne chance. Hein.
Bah, merci de l'accueil. Ah,
en tout cas, c'est pas la grande course, hein, c'est la course
c'est
du dimanche.
C'est ça, la course du dimanche.
3 heures.
Exactement, les 3 heures.
Bonne chance. Hein.
Bah, merci. Bah, écoute, j'espère et qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Bon, alors, pour Philippe et Xavier, pareil, hein, mais ça, c'est une course d'une heure hein, pour le vendredi, ouais, hein, ouais, pour en vintage. Ouais. Hein.
Et il y aura Pierre aussi, hein, Pierre qui voilà. fait partie de la bande là, et qui va rouler avec un trike modifié en deux.
Oh oui, j'ai vu son bizzle, des grosses roues pas possible.
Oui, ça va être.
Il va jamais s'enfoncer lui.
Ça va être assez sympa. Non, il va surfer lui. Il y a des vieux tracteurs sur sa moto, ça vaut le coup de le voir.
Et notre vieux guerrier Manu, hein, qui a 50 ans a pris le départ.
Il sera dans les stands
du premier enduro 75 hein, ouais, à 10h. Ouais. En gros, là, on est le 18-19 aujourd'hui, à un mois, 20 jours près, ça fait 50 ans.
Mais voilà. C'est vrai que c'est dommage parce qu'on avait des épreuves de deux fois une demi-heure et aujourd'hui on est sur une heure.
Oui.
Il y avait un format où les gens pouvaient venir aussi rencontrer les machines à l'époque. Ça c'était sympa. Voilà. Ça se fait plus.
Okay. L'émission se termine. Merci messieurs d'être venus aujourd'hui raconter votre vie sur les plateaux de Radio Campus Lille.
Et bon dimanche.
Et merci à notre technicien qui nous a passé quand même des bruits de moto que vous ne reconnaissez même pas.
Bah.
Hein ah oui, franchement, vous n'avez pas été les chercher. Hein. Bah, l'émission se termine. Passez un bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain. Salut, bye.
Allez, merci. Bon dimanche. Salut.